Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Philippe David.
L'URSS a la bombe. La nouvelle est maintenant officielle.
C'était il y a 70 ans aujourd'hui. Les actualités françaises diffusées dans les cinémas, puisqu'en 1949, seuls 297 foyers français avaient un téléviseur, annonçaient que l'Union soviétique venait de se doter de l'arme atomique. Une nouvelle dévoilée au monde, non par les soviétiques, mais par le président américain Harry Truman, 6 jours plus tôt, le 23 septembre. Nous sommes en compagnie de Pascal Boniface, géopolitologue et auteur du livre « Comprendre le monde », publié chez Armand Collin. Pascal Boniface, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. C'était il y a 70 ans, 4 ans après les USA, les Soviétiques avaient l'arme nucléaire. Comment a réagi le monde ?
Eh bien, par la stupeur, parce que beaucoup pensaient que les Soviétiques seraient trop retardés technologiquement pour acquérir l'arme nucléaire. Et les Américains eux-mêmes, d'ailleurs, pensaient que leur avance technologique, leur supériorité, les mettait à l'abri de cette parité, de cet équilibre des forces. Alors en fait, les Soviétiques avaient profité de réseaux d'espionnage et étaient tout à fait au courant du programme américain. Et puis eux-mêmes avaient aussi des scientifiques de bon niveau. Et bien sûr, pour Staline, il était impossible de rester dans une sorte de dépendance, de fragilité, de dissuasion unilatérale, parce que les Américains ont eu le monopole donc de l'arme nucléaire de 45 à 49.
Alors justement, c'est le président américain Harry Truman qui l'apprend au monde en déclarant « Nous avons la preuve qu'au cours de ces dernières semaines, une explosion atomique a eu lieu en URSS. L'explosion a eu lieu un mois plus tôt, le 29 août à Semipalatinsk au Kazakhstan. Ces preuves, c'est la radioactivité détectée, ironie du sort, par des Boeing B-29 espions, les mêmes avions qui avaient rayé Hiroshima et Nagasaki de la carte. » Les Soviétiques apprennent à cette occasion qu'ils sont espionnés de cette manière, puisque ni Staline ni l'agence TASS n'avaient fait la moindre déclaration à ce sujet. Sont-ils surpris, Pascal Boniface ?
Oui, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de satellite. Et les avions qui observent ce qui se passe sur un pays violent l'espace aérien d'un pays. D'ailleurs, quelques avions espions américains au-dessus de Cuba ou de la Russie, de l'Union soviétique, avaient été abattus. Et donc, effectivement, les moyens techniques sismologiques n'ont pas du tout la performance qu'ils ont eue par la suite. Et je dirais que c'est un petit peu presque par chance qu'on a pu découvrir cela, parce qu'une fois encore, il n'y avait pas les moyens de détection. Et plus tard, on va interdire les essais nucléaires dans l'atmosphère parce qu'on est incapable de détecter les essais nucléaires souterrains.
Alors justement, Pascal Boniface, cette bombe, c'est la copie de Fat Man, la bombe qui a rayé Nagasaki de la carte. Sans l'aide de David Greenglass, de Klaus Fuchs et des époux Rosenberg, l'URSS aurait-elle eu l'arme nucléaire aussi vite ?
Oui, elle l'aurait eu, mais peut-être moins rapidement. Mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer, comme l'ont fait certainement les Américains, les capacités techniques et technologiques. Bien sûr, l'URSS était peu développée en termes de consommation, mais l'industrie militaire, elle, l'était extrêmement. Et puis, Staline avait mis la priorité sur l'appareil militaire. Donc peut-être que l'espionnage a fait un peu accélérer la capacité de maîtrise. Mais au-delà de l'arme, ce qui compte aussi, c'est le moyen à délivrer. Or, en 49, l'URSS devient un pays nucléaire, mais elle ne peut pas atteindre le territoire américain parce que ses avions n'ont pas la capacité intercontinentale et qu'elle n'a pas de missiles balistiques qui puissent franchir l'océan Atlantique. Et donc, y compris lorsque l'URSS acquiert l'arme nucléaire, eh bien, elle peut éventuellement menacer les pays d'Europe de l'Ouest. Elle ne peut pas menacer les États-Unis, alors que les États-Unis, eux, à partir des bases qu'ils ont en Europe, peuvent menacer l'Union soviétique.
C'est un tournant dans la guerre froide, on passe à l'équilibre de la terreur.
Le véritable équilibre de la terreur, il est atteint en 57, quand le bip-bip signale aux Américains que les Soviétiques ont la maîtrise de l'espace et qu'ils ont des armes intercontinentales qui peuvent directement atteindre le territoire américain. Et c'est là où il y a une véritable dissuasion mutuelle, parce que jusque 57, eh bien, l'Union soviétique était à la merci des armes nucléaires américaines, alors que ceci était exonéré de toute menace nucléaire soviétique.
Alors justement, 3 ans plus tard, le 1er novembre 52, les USA font exploser leur première bombe H, imité 9 mois plus tard par les Soviétiques, le 12 août 53, c'est le début de la course aux armements.
C'est le début de la course aux armements et comme vous le voyez, l'écart se réduit parce qu'il aura fallu 4 ans pour la bombe A et un peu plus d'un an pour la bombe H. Et effectivement, à partir de là, à chaque progrès de l'un, l'autre va penser, et plus souvent les États-Unis, qu'il faut accélérer la course pour maintenir son adversaire à distance, sauf que cet adversaire va lui aussi accélérer et qu'on va finir à une situation où chaque pays aura plusieurs milliers d'armes nucléaires, ce qui est tout à fait excessif par rapport au pur besoin de dissuasion.
La grande menace, elle aura lieu quelques années plus tard, 10 ans plus tard, la crise des missiles de Cuba.
Oui, c'est là où vraiment où le monde est passé à quelques encablures d'une guerre nucléaire. Dans ses mémoires, des protagonistes disent qu'ils pensaient que peut-être ils allaient se coucher en pensant qu'ils ne se réveilleraient pas le lendemain. Et c'est quand même une époque où et Kennedy et Khrouchtchev, donc on appelle les deux cas, ont chacun à un jour d'intervalle été prévenir leurs compatriotes à la télévision que peut-être une guerre nucléaire s'annonçait. Donc imaginez quand même la façon dont l'opinion a été saisie et donc effectivement, heureusement la diplomatie a payé, heureusement on a trouvé une voie de sortie, mais c'est certainement l'époque de l'humanité où l'humanité a été le plus près de l'arme nucléaire et d'où d'ailleurs un ressaisissement et c'est à partir de là qu'on est rentré dans ce qu'on appelait le cycle de la maîtrise des armements.
Dernière question, Pascal Boniface. Est-ce que finalement, ces armes de terreur n'ont pas maintenu la paix et évité une troisième guerre mondiale ?
Oui, effectivement, c'est le concept de dissuasion. L'arme nucléaire a ce paradoxe qu'elle ferait tellement de dégâts qu'on ne l'utilise pas. Churchill avait, dès 1945, dit que l'âge nucléaire, la survie sera le robuste enfant de la terreur et la sécurité, la sœur jumelle de l'annihilation. Et donc, effectivement, l'arme nucléaire pourrait détruire le monde. On ne survivrait pas à une guerre nucléaire, alors qu'on peut survivre même difficilement à une guerre conventionnelle. Et c'est pour cela que, depuis Hiroshima et Nagasaki, elle n'a plus jamais été utilisée. Et que dans une Europe qui était profondément divisée, surarmée et très antagoniste, eh bien, la dissuasion est habituée à la guerre. Eh bien, la dissuasion a permis à l'Europe de vivre en paix pendant toute la guerre froide.
Merci beaucoup, Pascal Boniface, auteur de Comprendre le monde, publié aux éditions Armand Collin.
Merci à vous.